Ce matin, on a éclairé ces notions d'échec et réussite. Donc on va continuer à affiner notre réflexion par rapport à cette question. Et dans un premier temps, je vais passer la parole à Christophe Michaud, qui va nous parler des facteurs de réussite et d'échec à partir d'un certain nombre de recherches faites en France.
C'est bien ça, merci. Alors, lorsque Laurent Confort m'a contacté, il m'a proposé de présenter deux choses. La première, à savoir une synthèse des facteurs personnels et contextuels influençant la réussite. Et puis, il m'a également demandé si c'était possible d'intégrer les recherches que j'ai réalisées avec mon collègue Pascal Guibert sur la fraude aux examens et sur le plagiat. Alors, sans doute, ça aurait été plus passionnant que je vous parle peut-être de ce sujet-là, mais malheureusement, faute de temps, j'ai dû faire des choix et je ne vous parlerai pas de cette question, sauf si vous voulez en parler en aparté. Éventuellement, je pourrais en parler avec vous. Alors, donc, je vais vous parler des facteurs de réussite et d'échec à l'université et je vais surtout concentrer mon propos sur le premier cycle universitaire. Je vais bien parler que de l'université, ça ne veut pas dire que, et on l'a déjà un petit peu évoqué ce matin, qu'il n'y a pas d'échec ailleurs, en STS, dans certaines écoles professionnelles. On pourrait même se demander s'il n'y a pas d'échec en classe préparatoire aux grandes écoles. Bon, ça serait une autre discussion. Et donc, je vais surtout concentrer donc, mon propos sur ces facteurs de réussite et d'échec à l'université, et notamment en premier cycle. Alors, cette question, elle n'est pas nouvelle, puisque l'échec à l'université, c'est un problème récurrent. J'allais dire, tous les ministres se sont un peu cassés les dents et ont essayé de résoudre, on va dire, de trouver des solutions pour diminuer cet échec. Et comme je disais, un problème récurrent et un phénomène qui n'est pas nouveau, dans la mesure où, en définitive, cet échec, on le retrouve dès les années 50. J'ai repris les travaux d'un historien qui s'appelle Didier Fischer, qui a écrit un ouvrage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « L'histoire des étudiants en France ». Et Didier Fischer soulignait qu'à la fin des années 40, moins de 30% des inscrits obtenaient leur licence. Donc on avait déjà, à cette époque, de l'échec à l'université. Et donc les universités ont depuis plus de 50 ans des difficultés à faire réussir la majeure partie des étudiants. Alors il ne s'agit pas ici de proposer des solutions, même s'il y aura peut-être des questions en ce sens, mais surtout de comprendre ce qui est à l'origine des faibles taux de réussite à l'université. En se demandant d'une part si les étudiants qui réussissent présentent ou non des caractéristiques spécifiques, et si oui, lesquelles. Et en se demandant également, alors un point qui a déjà été un petit peu évoqué ce matin, est-ce qu'il y a des contextes universitaires qui sont plus favorables que d'autres à la réussite. Alors, je vais parler uniquement des recherches françaises, parce que, comment dire, faire un petit panorama de ce que, comment dire, du retard qu'on a pris en France, à mon sens, par rapport à nos amis très proches, belges, suisses, ou un peu plus loin, dans l'espace francophone, les Québécois, qui, à mon avis, ont beaucoup plus avancé sur ces questions. Je vais surtout donc vous parler des facteurs. Alors, évidemment, il faut, quand on parle de facteurs, il va falloir faire des choix, parce que je ne vais pas vous présenter l'ensemble des facteurs, je n'aurai pas le temps, et puis parce que je ne maîtrise pas tout. Et donc, je ne vais pas vous présenter tout ça en détail. Je vais laisser de côté les facteurs psychologiques, parce que d'autres intervenants, je pense notamment sans doute aux travaux de Marianne Freinet, vous présentera ça bien mieux que moi. Un collègue québécois qui est venu me voir tout à l'heure m'a dit qu'il allait parler des pratiques pédagogiques des universitaires. Donc, je vais laisser aussi de côté cet aspect. Et puis, Cathy Perret vous présentera ses travaux sur les dispositifs d'accompagnement des étudiants et leur efficacité. Donc là encore, je vais laisser de côté ceci. Donc, je vais surtout insister dans ma présentation sur les différences de réussite entre les universités. Et dans un second temps, eh bien, j'ai, comme me l'avait un petit peu demandé Laurent Contefroy, je proposerai quelques pistes de recherche à mener. Alors, avant de vous présenter donc ces différentes questions, je voudrais juste dire un petit mot sur, pour réaliser cette synthèse, sur les sources que j'ai utilisées. Alors évidemment, on peut utiliser toutes les recherches académiques, ça c'est de manière très, très classique, mais aussi les sources, les statistiques institutionnelles. Je pense que les statistiques de l'ADEPS sont très importantes, à mon sens indispensables. Et je pense que l'ADEPS a fait de gros progrès sur cette question, parce qu'on a des choses très très fines et très très intéressantes. Évidemment, les données de l'Observatoire de la vie étudiante, qu'on a déjà évoquées ce matin, sont très très riches et on a beaucoup de travaux intéressants sur cette question. Et puis, les travaux du CEREC, à travers les enquêtes Génération, qui retracent les parcours des étudiants avant leur insertion. Alors, donc, comme je vous le disais, je vais me focaliser sur le premier cycle et commencer par la réussite en première année. Alors, ça, c'est des travaux très classiques, puisqu'on a beaucoup de travaux sur les difficultés de réussite en première année. Et puis, ensuite, j'aborderai la question du parcours des étudiants entre cette première année et la fin de ce cycle. Alors, je suis désolé, je vais vous présenter peut-être pas mal de statistiques. Des chiffres qui sont... Si j'en donne trop, vous m'arrêtez. Je vais commencer par un premier tableau que vous connaissez sans doute, qui donc s'appuie sur une note d'information du ministère, de l'ADEP. Il est peut-être pas, c'est peut-être pas les derniers chiffres, mais ce n'est pas très grave. Ça ne change pas beaucoup. Pour l'ensemble des filières, vous le voyez, 43,8% des étudiants passent en seconde année. 29% redoublent et 27% sortent de l'université. Alors, il faut tout de suite dire un mot sur les sorties de l'université. Une sortie, ce n'est pas un abandon définitif des études. C'est plutôt, d'ailleurs, et on va le voir un peu par la suite, souvent une réorientation vers d'autres secteurs de l'enseignement supérieur. Alors, j'y reviendrai. Quand on regarde ce graphique, on voit qu'il y a des variations entre les formations, les écoles d'ingénieurs, les IUT qui ont des taux de passage assez élevés, et puis en bas du graphique, les études de santé qui ont des taux faibles. Alors, nous on sait bien pourquoi. École d'ingénieurs IUT, il y a une sélection à l'entrée. En santé, des taux de réussite faibles, c'est en raison du numerus clausus en fin de première année. Tout ça, sans doute, vous le savez. Puis entre les deux, vous voyez, toutes les formations générales qu'on peut trouver, toutes les licences qu'on peut trouver à l'université, avec des taux relativement proches, peut-être à part en AES, administration économique et sociale, où on a des taux de réussite très faibles, qui s'expliquent très facilement par la composition scolaire des étudiants de cette formation, puisqu'on a en majorité des bacheliers technologiques et professionnels dans cette formation. Alors, pourquoi je vous montre ce graphique ? Parce que on voit tout de suite que la question de la sélection va être importante. On peut avoir donc une sélection à l'entrée, une sélection sur examen, et puis une sélection qui peut s'opérer en fonction du nombre de places réglementées, on va dire. Donc le fameux numerus clausus. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, puisque, évidemment, ça va avoir des effets sur la réussite universitaire. Une deuxième chose qu'on peut regarder, qui est intéressante, c'est le taux de redoublement. Le taux de redoublement donne, d'une certaine manière, des indications sur la persévérance des étudiants dans leur filière, d'une certaine manière, leur attachement à leur formation d'origine. Vous voyez qu'on redouble beaucoup en santé. Donc les étudiants qui viennent en santé n'y viennent pas par hasard, ils sont très attachés et vont, certains, souvent redoubler. On retrouve un peu on va dire, des taux de redoublement aussi assez relativement élevés en droit, sciences politiques et en STAPS. C'est un élément aussi important à prendre en compte, hein, parce que ce choix de la formation d'origine va avoir une influence par la suite. Alors voilà pour ce premier graphique. Un deuxième graphique va relativiser un peu ces résultats. Lorsqu'on regarde le parcours des nouveaux entrants, des néo-inscrits, en première année, alors là encore, c'est 2007, sans doute des chiffres un petit peu plus récents, et vous voyez que sur 100 inscrits en première année, eh bien, si vous regardez l'année 3, seuls 27% obtiennent leur licence en 3 ans. En gros, un quart des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans. On pourrait se dire que c'est catastrophique. Alors, si on prolonge d'une année, vous voyez qu'on augmente un petit peu et on passe à 38,9%. Vous voyez néanmoins qu'à travers ce graphique, qu'il y a, si on se focalise sur l'année 2, 40% qui s'inscrivent donc en deuxième année, 24% qui redoublent leur première année, et puis 31,8% qui ne se réinscrivent pas à l'université. Alors, on pourrait se dire c'est un taux extrêmement élevé. En réalité, comme je le soulignais préalablement, si on suit, on a quelques études qui suivent ces étudiants après l'université et qui nous montrent très clairement que, en définitive, ceux qui arrêteront leurs études définitivement sans obtenir aucun diplôme sont bien moins nombreux, puisqu'ils représentent, d'après une étude, autour de 13%. Donc on a un chiffre vraiment à relativiser, hein, et c'est ce qu'il faut sans doute retenir. Non-réinscription à l'université, ce n'est pas abandon des études. Dans ce groupe des 31%, il y a notamment des étudiants qui, d'une certaine manière, ne vont jamais mettre les pieds à l'université. C'est ce qu'on appelle couramment les étudiants fantômes, qui ne passeront aucune épreuve d'examen. Alors, c'est toujours très difficile d'identifier justement ces étudiants fantômes. Généralement, on les repère par définition. On les repère lorsqu'on liste les présents lors des partiels. Et une enquête du ministère qui date un petit peu avait montré qu'il y avait 18% des étudiants de première année qui ne se présentaient pas au premier partiel. Tout ça pour vous dire qu'il faut relativiser cet échec et que, très clairement, il va y avoir un effet de cette... de la mesure, j'allais dire, de la réussite qui peut être extrêmement variable. Alors, je voudrais ajouter une dernière chose avant de passer aux difficultés de la mesure de la réussite et de l'échec. J'ai repris le tableau précédent, puisque c'est des statistiques qui sont publiées chaque année par le ministère et qui sont publiées maintenant depuis plus de 20 ans. Et ces taux de passage, de taux de redoublement et taux de sortie étaient exactement les mêmes il y a 20 ans. Donc là encore, il n'y a pas eu de dégradation, on pourrait dire, de la situation, mais pas non plus d'amélioration. Alors, comme je vous disais, quelques difficultés quand on veut mesurer la réussite et l'échec. Je vais passer assez vite parce que j'imagine que Marc Romainville l'a déjà un petit peu évoqué, comme je suis arrivé un peu tard dans la matinée, je ne sais pas trop ce qu'il vous a dit, mais... Bon, les difficultés sont liées aux mesures de la réussite et l'échec, c'est-à-dire comment on la mesure cette réussite et comment on mesure cet échec. On peut mesurer évidemment la réussite à travers des résultats aux examens, ça c'est assez classique, hein, alors semestriel ou annuel. On peut mesurer la réussite à travers l'obtention du diplôme, mais on voit bien, il faudra fixer dans ce cas, est-ce qu'on se base sur la durée théorique de 3 ans pour réussir une licence par exemple ou plus ? On peut aussi mesurer les taux d'abandon de la formation ou des études en général, la persévérance dans la formation, c'est quelque chose qui est assez peu étudié en France, mais qui l'est beaucoup plus au Québec, au Canada en général, les réorientations, etc., etc. Bon, des choses très, très, très classiques, mais c'est important de bien indiquer ce que l'on cherche à mesurer parce que les facteurs, justement, ne vont pas avoir la même influence en fonction justement de cette mesure. Et puis, plus rarement en France, alors là, c'est presque, il y a très très peu d'études qui cherchent à mesurer le, pour appeler un niveau de performance, à des tests ad hoc pour réaliser, pour avoir des indications sur cette performance. Puis la deuxième difficulté, ou on va dire pour lesquelles on a des fois des résultats divergents, dépend des méthodes d'analyse qu'on va retenir. Classiquement, on va dire des analyses bivariées avec des tableaux croisés, ou des analyses multivariées qui peuvent conduire à relativiser le, on va dire, le poids de certains facteurs. Voilà, bon, je passe très vite parce que j'imagine que tout ça, vous l'avez, on l'a déjà un petit peu évoqué précédemment. Alors, venons-en aux facteurs de réussite et d'échec. Vous avez ici un graphique qui, on va commencer par la partie droite du graphique, qui reprend les différentes mesures que je viens de vous présenter, les parcours académiques, résultats aux examens, abandon, persévérance, réorientation. Et puis cinq grandes dimensions, des choses qui ont été largement documentées concernant les caractéristiques sociodémographiques ou la scolarité antérieure, ou on peut continuer avec les conditions de vie qui ont été là aussi fortement étudié par l'Observatoire de la vie étudiante. Le métier d'étudiant, alors c'est sans doute un terme qui maintenant est très connu à travers les travaux d'Alain Coulon. Et puis, ce qui l'est peut-être un peu moins, les contextes d'études. J'aurais pu ajouter d'autres facteurs, comme je vous disais, les facteurs psychologiques, par exemple. J'ai pour... alléger mon diaporama, j'ai indiqué seulement les variables que j'envisage d'étudier et de vous présenter. Alors, je vais commencer par les caractéristiques sociodémographiques. On sait que c'est quelque chose qui a été longuement étudié. Je vais commencer par les étudiantes. Et les différences de résultats entre les étudiants et les étudiantes. Sans doute un résultat aussi connu, les étudiantes obtiennent de meilleurs résultats aux examens, obtiennent plus souvent leur diplôme, mais persévèrent moins après un master vers un doctorat. Alors cette meilleure réussite, on le sait, je vais juste vous donner un chiffre, hein, 33% des garçons obtiennent leur licence en 3 ou 4 ans, contre 42% pour les filles. Alors finalement, cette meilleure réussite des filles, elle n'est pas très surprenante, puisqu'on sait déjà qu'elles réussissent mieux au collège, qu'elles obtiennent plus souvent leur bac avec mention. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cet écart qu'il y a avec les garçons, eh bien, continue, se creuse ici. Alors, si les étudiantes réussissent mieux, travaux l'ont montré, hein, c'est surtout parce qu'elles sont plus studieuses. J'y reviendrai sur cette question. Elles ont une gestion plus rigoureuse du temps et des activités étudiantines. Elles sont aussi plus assidues. Alors, deuxième variable, l'origine socioculturelle. Alors, ici, on a des résultats qui ne vont pas tous dans le même sens. Parce que, alors évidemment, ça a été longuement étudié par les travaux depuis les travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Plasson avec l'ouvrage sur les héritiers. Juste une remarque pour commencer. Si on prend une note récente de l'OCDE, elle nous dit que les élèves de milieux défavorisés accèdent moins à l'enseignement supérieur en raison de plus faibles performances scolaires, d'un décrochage plus élevé, d'une moindre aspiration à suivre des études supérieures. Bon, ça, c'est bien connu, hein, c'est un résultat tout à fait connu. Mais ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que les résultats aux examens diffèrent selon l'origine sociale des étudiants? Et je parle bien de réussite aux examens. Alors, pour essayer de répondre à cette question, il y a deux manières de faire. Je vais reprendre mon graphique. Soit on associe directement l'origine socioculturelle et on trace une flèche rouge jusqu'au parcours académique et jusqu'aux résultats aux examens, ou en termes de persévérance. Et là, on va effectivement montrer qu'il y a un lien entre origine sociale et résultats aux examens. Par contre, si on tient compte de la scolarité antérieure des jeunes, puisqu'on sait que la scolarité antérieure, évidemment, des enfants d'ouvriers est différente de celle des enfants de cadre, eh bien, cet effet de l'origine sociale ne se manifeste plus. Autrement dit, dans notre jargon, toute chose égale par ailleurs, eh bien, l'origine sociale n'a pas d'effet direct sur les résultats aux examens. Et je parle bien de résultats aux examens. Je ne parle pas de parcours des étudiants, de résultats aux examens en fin d'année. Il en va différemment si on s'intéresse au parcours, parce que là, effectivement, l'origine sociale va avoir un effet, on le sait, sur le décrochage et sur la persévérance dans les études. Mais sur les résultats aux examens, il n'y a pas de différence significative. Deuxième grande dimension, les conditions de vie des étudiants. Je suis passé assez vite parce que là encore, c'est des travaux qui sont sans doute déjà bien connus. On sait qu'une activité professionnelle régulière et au moins à mi-temps diminue significativement les chances de réussite. Alors ça, c'est des travaux de Claude Grignon et Louis Gruel qui ont montré ça depuis les années 90. Et on a des travaux plus récents, encore une thèse qui a été publiée à l'Université de Poitiers récente, qui montre sensiblement le même résultat. Alors, pour ce qui concerne les ressources financières, là, on a des résultats assez intéressants, parce que les premiers travaux de l'Observatoire de la vie étudiante montraient plutôt une faible corrélation entre les ressources des étudiants et la réussite. Montraient également qu'il n'y avait pas vraiment de différence de résultats entre les étudiants boursiers et non boursiers. Donc on pourrait se dire, finalement, les ressources financières n'ont pas vraiment d'effet sur les résultats des étudiants. Alors, il y a une note de l'ADEP intéressante, assez récente, qui essaie de voir si les difficultés financières ressenties par les étudiants avaient un effet. Et ils ont distingué les non-boursiers des boursiers, et ils montrent que les non-boursiers ont difficultés financières valident significativement moins leur année d'études. Et finalement, ces travaux montrent que la bourse a quelque part un effet protecteur, et donc elle permet plus facilement non seulement de réussir, mais surtout de poursuivre les études. Voilà, alors venons-en à troisième dimension, la scolarité antérieure, qui, et on le verra par la suite, est de loin la dimension la plus importante. Bon, je vais passer très vite sur des choses que, là encore, vous connaissez sans doute, l'influence de la série du bac, la hiérarchie en France des séries du bac, on réussit mieux avec un bac scientifique, puis avec un bac ES, économique et social, et ensuite les bacheliers littéraires, et ensuite les bacheliers technologiques, et enfin les bacheliers professionnels, puisque les bacheliers technologiques sont 15% à valider leur licence en 3 ou 4 ans, et les bacheliers professionnels, 5%. C'est beaucoup focalisé, d'ailleurs, ces derniers temps, sur ces bacheliers professionnels, comme si, j'allais dire, c'était les bacheliers professionnels qui étaient à l'origine de tous les maux de la France, pas de la France, pardon, de l'université française. Il faut savoir qu'ils ne représentent que 6% des étudiants. Donc, même si on excluait les bacheliers professionnels de l'université, ça ne résoudrait pas, à mon sens, la question de l'échec à l'université. Ça, c'est un élément bien connu. Et puis l'autre variable importante, c'est la mention au bac ou une mesure, on va dire, du niveau d'acquis des étudiants entrants. Alors, cette mention du bac, elle est d'autant plus déterminante dans les formations les plus sélectives, juste pour vous donner un chiffre encore, il faut savoir qu'en médecine, un bachelier ayant obtenu une mention très bien a 35 fois plus de chances à réussir à passer le cap de la première année qu'un bachelier sans mention. Bon, ça, on le sait bien, pour réussir médecine, il faut avoir souvent une mention bien et très bien à un bac scientifique. Dernier aspect, le parcours post-secondaire. Tous les étudiants qui sont en première année ne viennent pas directement depuis l'année terminale du secondaire vers cette première année. Certains ont déjà redoublé ou sont passés par une autre formation auparavant. Et alors ça, c'est un résultat, me semble, assez important. C'est l'effet positif du redoublement à l'université. Les redoublants réussissent mieux que les primo-entrants, alors qu'on sait très bien que pour les niveaux du premier degré et du second degré, c'est beaucoup d'études qui montrent l'inefficacité du redoublement. Mais aussi, il y a un effet positif de certaines réorientations. Les étudiants de médecine, par exemple, qui ont échoué et qui vont vers les sciences de la vie. On retrouve aussi cet effet dans d'autres formations, je pense notamment vers les sciences économiques, mais on ne retrouve pas cet effet de ces réorientations vers les sciences humaines et sociales. Voilà pour cette scolarité antérieure. Il faudrait ajouter un dernier point, mais là encore, que j'ai déjà un petit peu évoqué, qui est bien connu, ce sont les étudiants qui s'inscrivent par défaut dans la formation qu'ils n'avaient pas choisie. On considère qu'ils sont de l'ordre de 20%, et on voit des effets néfastes de cette inscription par défaut. Alors, sur le métier d'étudiant, je ne sais pas si je vais l'évoquer, parce que c'est des choses qu'on connaît aussi et que Saïd a sans doute déjà présenté, des effets positifs de certaines activités comme l'assiduité, le travail personnel régulier, la fréquentation des bibliothèques, l'utilisation de manuels, etc. etc. C'est un point que je n'ai pas le temps d'évoquer, je le dis simplement, la quantité de travail personnel n'est pas forcément associée à une meilleure réussite. Alors, je voulais vous présenter un schéma, mais que je n'aurai pas vraiment le temps de vous présenter. Je le passe et je vais plutôt insister sur un autre aspect, qui est l'influence du contexte d'études, qui me semble plus intéressant. Contexte d'études. Alors, les recherches françaises sur cette question sont plus rares. On peut recenser deux grands domaines où ce contexte d'études a été étudié. Ce que l'on pourrait appeler un effet établissement, qu'on pourrait formuler d'une autre manière, est-ce qu'il existe des différences de réussite entre les universités, d'une part. Et l'autre aspect qu'on pourrait étudier, c'est l'effet des politiques et des dispositifs d'accompagnement des étudiants. Alors, on pourrait donc se demander si on peut parler d'un effet université comme on parle d'un effet établissement lorsque l'on évoque les différences de résultats entre les écoles, parce que les premiers travaux portaient sur l'école primaire, en tout cas pour ce qui concerne la France, ou un effet lycée. Est-ce qu'on peut parler ici d'un effet université? Et puis, la troisième question que je voudrais évoquer, c'est dans quelle mesure l'université fréquentée est-elle déterminante pour réussir? Autrement dit, parmi les grandes dimensions, l'ensemble des facteurs que je vous ai très très brièvement présentés, est-ce que ça a un rôle important pour réussir? Alors, je vais commencer d'abord par essayer de répondre à la première question. Est-ce qu'il existe des différences de réussite à l'université? Alors, je vais encore m'appuyer sur des statistiques de l'ADEP, c'est pour dire à quel point elles sont précieuses, montre le devenir des nouveaux bacheliers inscrits en première année de licence. Je n'ai pas pris la liste de l'ensemble des universités, j'en ai sélectionné que 4. On va commencer quand même par l'ensemble des universités, 43% passent en deuxième année. Paris 6, 57%, Paris 13, 25%. On peut se dire Paris 6, c'est une excellente université, mais alors on voit tout de suite que c'est facile d'expliquer ces 57% à travers la composition des nouveaux bacheliers, c'est-à-dire les séries du bac. Ici, vous voyez, 97% ont un bac général, et Paris 6, c'est une université scientifique. On trouve quasiment que des bacheliers scientifiques. À l'inverse, Paris 13, 25% de taux de passage, mais vous voyez, 42% de bacheliers technologiques, 17% de bac pro et seulement 40% de bac général. Donc, On comprend aisément que Paris 6 obtienne plus facilement, de certaines manières, des bons résultats que Paris 13. C'est pour cette raison que le ministère va utiliser ce qu'il appelle un taux simulé. Alors, vous avez la définition en dessous, dans l'encadré, pour ensuite, alors ce taux simulé tient compte justement de cette composition des nouveaux bacheliers, et ainsi on peut calculer ce qu'il appelle une valeur ajoutée, qui est simplement la différence entre le taux réel et le taux simulé. Et vous voyez que dans ce cadre, Paris 6 n'est pas une université qui a une valeur ajoutée très élevée, celle qui a la valeur ajoutée la plus élevée, c'est Clermont 1. Et celle qui a la valeur ajoutée la plus faible, c'est l'université du Havre. J'espère que personne ne vient du Havre. Si ? Alors, ces chiffres sont intéressants et j'allais dire relativisent justement les différences de réussite entre les universités, mais surtout, ils vont tenir compte de la composition des universités. Alors, le problème, outre, j'allais dire, les critères qui sont utilisés pour corriger, on va dire, les différences de réussite, existe aussi un problème de stabilité de ces résultats, parce que le ministère publie, là encore, je crois, chaque année, ces différences. Et l'Université du Havre n'est plus dans la liste des universités qui ont des taux, des valeurs ajoutées très faibles. Donc elle a disparu. Et c'est un peu le problème de ces indicateurs, c'est qu'il n'y a pas des universités très, très, qu'on retrouve systématiquement en haut du palmarès, on pourrait dire, ou en bas. Alors, cela étant, si, on peut en retrouver 4 ou 5 universités. Je ne sais pas si je dois les citer. Si, on peut. Alors, il y a Clermont 1, effectivement, Angers, Lyon 2, La Rochelle, l'Université du Littoral. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces universités qui sont assez différentes et dont on pourrait se demander, finalement, qu'est-ce qui explique qu'ils ont de meilleurs résultats. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Petite remarque quand même sur l'effet université, comme on pourrait le traiter dans le cadre d'un effet école ou d'un effet établissement. Le problème, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'effet université, parce qu'on ne sait pas trop qui finalement décide de la politique ou de l'orientation pédagogique. On peut très bien, évidemment, avoir une politique pédagogique d'une présidence qui va, notamment en termes de taux d'encadrement, décider d'avoir des taux d'encadrement relativement élevés en licence ou au contraire assez faible, mais on sait aussi que des décisions se prennent au niveau d'une composante ou des départements de formation ou encore au niveau d'une équipe pédagogique qui gère directement le diplôme. Et parler d'effet d'établissement, ben c'est un peu tout ça. Et on ne sait pas finalement quel est l'élément le plus important. Enfin, je soupçonne quand même que ce soit l'équipe pédagogique, plus que la politique pédagogique d'une présidence, me semble-t-il. L'université fréquentée est-elle déterminante pour réussir ? Je pense qu'il doit me rester que quelques minutes, alors je vais passer assez vite. Je vais m'appuyer sur une recherche que j'ai réalisée maintenant il y a 15 ans, donc qui date un petit peu, évidemment, dans laquelle j'avais essayé de mesurer le poids, justement, du site universitaire sur la réussite des étudiants en première année dans seulement 3 formations, psychologie AES, sciences de la vie et de la terre, et seulement dans 3 universités. Bon, ça portait certes sur 1800 étudiants, mais ce ne sont pas les statistiques de l'ADEP. Cela étant, ce que j'ai cherché à mesurer, c'était le poids de chacune des dimensions que je vous ai présentées précédemment, le poids de la scolarité antérieure, du métier d'étudiant, des caractéristiques sociodémographiques, des conditions de vie, et enfin, ce que j'ai préféré appeler site universitaire plutôt qu'établissement. Alors, vous voyez tout de suite que, dans toutes les formations, ce qui va expliquer le plus la disparité des résultats, c'est avant tout la scolarité antérieure. Très clairement, et c'est très net en sciences de la vie et sciences de la terre, je pense qu'on peut dire qu'en sciences en général, c'est un élément important, alors que vous voyez qu'en psychologie, le poids de la scolarité antérieure est moins déterminant, cela étant, elle reste importante, il vaut mieux avoir suivi un parcours, on va dire un bon parcours au lycée, évidemment, mais vous voyez que le métier d'étudiant, pardon, a un rôle assez conséquent ici, c'est-à-dire que les pratiques des étudiants vont jouer un rôle extrêmement important en psychologie. Alors la différence entre les sites universitaires, ce sont les petites barres en noir, sont relativement faibles, mais il faut savoir qu'il y avait, toutes choses égales par ailleurs, quand on contrôle tout ça, des différences, notamment je pense à la psychologie, il y avait une différence d'un point sur 20 entre deux universités. Et donc on peut se demander d'où vient ce point. Alors, il faut savoir qu'un point, ça peut avoir des conséquences, évidemment, sur les taux de réussite. Quand on est à 9,5 et 10,5, ce n'est pas la même chose. Dans un cas, on valide, dans l'autre, pas. Et donc, on pourrait se demander d'où vient ce chiffre. Alors, le problème, c'est qu'on a du mal à l'estimer. Et on peut faire deux hypothèses. La première, c'est de dire que, finalement, cette université qui fait mieux réussir... c'est parce qu'elle a mis en place des pratiques pédagogiques qui font que les résultats s'améliorent. La deuxième hypothèse, c'est de dire que si on réussit mieux dans cette université, c'est parce qu'elle est moins sélective. Et on est toujours face à ces deux hypothèses, et c'est très difficile d'y répondre. Je reprends une citation d'un article que j'avais co-rédigé avec Marie Durubala et Jean-Pierre Jarousse, dans lequel on disait que les modalités de contrôle des acquisitions universitaires, les pratiques pédagogiques des enseignants et leur sélectivité lors des évaluations finales, ne permettent pas de statuer sur les différences de performance entre les universités. Je suis toujours avec ces deux hypothèses, et je suis toujours incapable de vous dire pourquoi l'université de Clermont a de meilleurs résultats que les autres. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une moindre sélectivité, ou si ils ont des pratiques ou des politiques pédagogiques qui font que les étudiants sont meilleurs. Pour conclure sur cette partie, si j'ai bien respecté le temps, ça va. Vous voyez bien que l'ampleur de l'échec, de la réussite et de l'abandon dans l'enseignement supérieur dépend fortement des indicateurs retenus. On l'a déjà dit ce matin. Voilà. Je crois aussi qu'il y a sans doute, pour bien comprendre ces différences de résultats selon les contextes disciplinaires, selon les universités, il faudrait sans doute... comprendre un peu quelles sont les logiques de formation et de sélection des étudiants. D'une part, du côté des universitaires, directement, mais aussi du côté des établissements. Et je crois qu'il existe des logiques, en fait, différentes de formation. Enfin, j'en suis sûr, mais il existe des logiques de formation et de sélection des étudiants qui sont différentes, mais qui, à mon sens, cohabitent au sein des universités. Alors, très clairement, le modèle de l'excellence académique, on le sait bien, qui caractérise le système français, est toujours très présent, mais cohabite, j'allais dire, d'autres logiques. Une logique d'émancipation qu'on retrouve plus souvent dans les filières de lettres et de sciences humaines, des logiques de professionnalisation, on le voit bien, puisqu'on a beaucoup de diplômes qui sont professionnalisés à l'université, avec des logiques d'intégration des étudiants. Et c'est... On voit bien que toutes ces logiques sont présentes à l'université, alors plus ou moins suivant les universités. Voilà pour la première partie de mon exposé.
Merci. Je pense que je t'ai probablement un peu pressé à un moment où tu parlais des profils étudiants, si tu penses que c'est important d'y revenir, puisque c'est quand même au cœur de notre travail. Bon, tu peux peut-être te permettre, on est juste, mais c'est... Ça peut passer.
J'ai peur que ça soit un peu caricatural. Non, je m'étais juste amusé à essayer de voir comment travaillaient les bacheliers scientifiques. Et j'ai pris les travaux de l'Observatoire de la vie étudiante, et puis, très simplement, j'ai essayé de distinguer ceux qui avaient obtenu une mention bac et ceux qui n'avaient pas obtenu, et ceux qui travaillaient plus que la moyenne et ceux qui travaillaient moins. Et ensuite, j'ai essayé de voir où on trouvait davantage ces étudiants en fonction de ces quatre figures. Avec des résultats là encore qui sont connus, les étudiants qui travaillent beaucoup, on les trouve plus en santé. Alors, j'ai adossé des qualificatifs qui sont très, très, très discutables, je m'en excuse. j'ai appelé les productifs qui, on le sait bien, qui travaillent beaucoup, on trouve davantage de filles dans cette catégorie, qui ont moins de loisirs, qui travaillent plus régulièrement et qui... ont moins d'activités professionnelles. On peut dire que là, on a des, comme certains disent, les vrais étudiants, les étudiants les plus studieux, ceux que tout enseignant rêve d'avoir, mais il faut faire aussi avec ceux qui, d'un autre côté, sont plus, enfin, moins, qui travaillent moins et qui avaient obtenu moins de, qui n'avaient pas obtenu de mention bac, ceux que j'ai appelés les oisifs, qu'on trouve plus souvent en IUT. Et puis, alors, on pense moins à ces deux autres figures que sont ce que j'ai appelé les dilettantes, qui ont obtenu plutôt des bons résultats au bac, qu'on trouve un peu plus en lettres SHS et en STAPS. Et puis, la dernière catégorie que j'ai appelée laborieux, les laborieux qui, vous avez vu, je suis plein de préjugés, qu'on retrouve plus en droit, économie, gestion.
Bien, mais merci.
Voilà, mais donc je n'aurais pas eu le temps de présenter mes suggestions de recherche. Je vous les mets comme ça le temps qu'on change d'intervenant. La dernière est sans doute la plus intéressante.
Tu en feras part au jury pour bien alimenter sûr, leur réflexion. Et puis on les mettra aussi. Ils feront partie de ce qui sera en ligne. Quoi.
Merci de votre attention.